RCF. Le temps de le dire, Antoine Bélier.
Bonjour à tous, à quelques jours de la journée mondiale sur le climat et alors que s'est ouverte à Madrid la COP25, beaucoup à commencer par l'ONU tire la sonnette d'alarme sur les conséquences du réchauffement climatique à l'exemple de son secrétaire général Antonio Guterres. Le point de non-retour n'est plus loin à l'horizon. Il est en vue et se rapproche de nous à toute vitesse, a-t-il martelé. Si nous sommes quasiment tous d'accord sur ce constat d'urgence, nous sommes peu enclins à agir pour changer concrètement nos façons de vivre. En témoigne l'objectif de l'accord de Paris qui devient de plus en plus un vœu pieux. Il préconisait de limiter le réchauffement à 1,5 degré, soit une réduction des émissions de CO2 de 7,6% par an. Nous en sommes loin. Est-ce que nous devons dès lors nous résoudre à une catastrophe programmée à moyen terme ou encore est-il temps d'agir? Nous nous posons la question ce matin dans Le Temps de le dire sur RCF.
Jusqu'à 10h, c'est Le Temps de le dire sur RCF.
Victor Dixen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous venez de sortir votre dernier roman après Cogito, pour lequel nous vous avions déjà reçu. Vous nous proposez une fiction futuriste, mais pas irréaliste, dans laquelle les pires prédictions climatiques se sont réalisées. Le roman s'intitule Extincta, il est publié dans la collection R aux éditions Robert Laffont. Christian de Pertuis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, où vous avez fondé la chaire d'économie du climat. J'ajoute que vous avez dirigé la mission climat de la Caisse des dépôts et vous avez conduit différentes missions pour les pouvoirs publics, dont la présidence du comité pour la fiscalité écologique. Votre dernier essai est publié aux éditions De Bock, le tic-tac de l'horloge climatique. Jean-Philippe Dugouin-Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire de Mennecy dans l'Essonne. Et puis, depuis novembre 2017, vous êtes le vice-président du conseil régional d'Île-de-France, chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement. Vous nous direz si la transition énergétique est en marche en Île-de-France et quels sont les moyens concrets mis en place pour la rendre effective. Comme chaque matin, cette émission est ouverte à vos commentaires, questions et témoignages. Vous pouvez nous écrire le temps de le dire @rcf.fr ou appeler directement le standard de l'émission.
Vos questions, commentaires et témoignages au 04 72 38 20 23.
Alors, on n'arrête pas de parler d'urgence climatique, mais pourtant, je le disais en introduction, beaucoup déplorent que peu de choses bougent pour lutter contre le réchauffement climatique. Pourquoi, Christian de Pertuis, cette inertie, comment vous l'expliquez?
Alors, il y a d'abord une inertie qui tient au délai entre le moment où on agit et le moment où ça a des conséquences, hein, puisque ce qui fait le réchauffement climatique, c'est le stock de gaz à effet de serre. Et ce stock, il a une très grande inertie. Donc lorsqu'on réduit les émissions, ce qui peut se produire dans certains pays, notamment européens, ça met beaucoup de temps avant que ça agisse sur le stock.
Ça veut dire que même si on atteint le zéro carbone, il y aura toujours des problèmes de réchauffement climatique.
Ça veut dire que le climat des 3 prochaines décennies est déjà très largement conditionné par le stock de gaz à effet de serre qui est déjà dans l'atmosphère, si vous voulez. Et donc ça va être un problème politique extrêmement complexe de gérer dans les années qui viennent, le fait qu'on va demander d'accélérer la transition vers une société bas carbone, alors que les impacts du changement climatique vont continuer à se durcir.
Victor Dixen, dans votre roman, on pourrait dire que l'urgence est largement derrière nous, elle est largement dépassée. Il faut gérer, en tout cas c'est ce que vous racontez dans votre livre, il faut gérer les conséquences dramatiques de la catastrophe écologique.
Oui, c'est ce que permet la science-fiction, de se projeter dans des avenirs plus ou moins lointains. La dernière fois, on avait parlé de l'intelligence artificielle dans un avenir très proche. Là, dans Extincta, j'ai décidé de me projeter beaucoup plus loin, plusieurs siècles dans le futur. Et j'ai pris l'hypothèse que les pires prédictions des climatologues se réalisaient toutes.
Alors, par exemple,
il y a un effet de serre qui s'est emballé. Donc, la plupart des terres émergées sont devenues inhabitables. Toutes les glaces ont fondu, le niveau des mers a augmenté. Les espèces animales sont presque toutes éteintes. C'est la 6e extinction de masse qui s'est également emballée. Et les êtres humains survivants ont trouvé refuge au Svalbard, le Spitsberg, ce petit archipel tout au large de la Norvège, près du cercle polaire, où rien ne pousse. Et la seule source de subsistance, ce sont des algues qui ont envahi la mer et qui viennent comme ça depuis le large, que l'on doit cultiver avant qu'elles pourrissent pour à leur tour libérer des gaz de putréfaction qui viennent entretenir le phénomène.
Et puis il y a un crime impardonnable, j'allais dire, dans ce roman, c'est le crime contre l'écologie, en fait, contre la Terre.
Oui, parce que finalement, ces humains du futur, qui se nomment eux-mêmes les derniers humains, expient, pour ainsi dire, et pâtissent du crime de leurs ancêtres, c'est-à-dire nous, tout simplement. qui n'avons pas réussi à temps à stopper l'effondrement écologique.
Alors, est-ce que cet effondrement nous amène, enfin, cet effondrement éventuel ou à venir nous amène à agir de façon responsable aujourd'hui? Quels sont les exemples que vous pourriez prendre pour la région Île-de-France, Jean-Philippe Dugoin-Clément, même si, tout ce qui concerne les théories de l'effondrement, vous êtes peut-être un peu réservé, je ne sais pas.
Non, ce qu'on constate, c'est depuis maintenant une dizaine d'années, il y a une prise de conscience de la part des opinions publiques, de la part des populations qui n'existaient pas ou qui étaient extrêmement marginales avant. Donc on observe depuis une dizaine d'années maintenant des pouvoirs publics, des États, des régions qui agissent beaucoup plus fortement qu'ils ne le faisaient préalablement. Après, on est sur des courbes qui sont longues et avec des délais d'inertie qui sont lents. Ce qui était dit par rapport aux gaz à effet de serre, c'est une réalité. Le temps d'élimination des gaz à effet de serre, c'est quasiment un siècle. C'est-à-dire que ce qu'on produit aujourd'hui va durer un siècle. Et quand on réduit les courbes de nos productions, eh bien, mécaniquement, ça n'aura pas d'effet immédiatement. La deuxième chose, c'est que les politiques publiques, quelles qu'elles soient, elles mettent du temps pour évoluer. Quand vous êtes sur une transition écologique pour changer vos modes de production d'énergie, pour changer les modes de transport, ça met des années, parce que vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain, ne serait-ce que pour des délais de réalisation, d'évolution technique, de délais de commande. Donc on est face à ce double effet d'inertie, d'une part le stock qui est à gérer, ce qui était dit tout à l'heure, et puis d'autre part la mise en place de politiques publiques. Alors à l'échelle d'une région, dans les compétences qui sont les nôtres, on agit, on investit de manière extrêmement forte pour aller vers une énergie décarbonée, pour aller vers une région qui soit moins polluée, une région qui soit plus vertueuse, qui soit plus autonome. Je pense qu'on aura l'occasion sur tous ces points-là de les développer dans l'heure qui vient.
Alors comment on peut associer, Christian de Pertuis, j'allais dire, la question de l'urgence à la question de la transition? Parce que qui dit transition dit quand même un temps relativement long, non?
Absolument. Alors, je crois qu'en réalité, il y a deux grandes transitions à opérer. Il y a d'abord ce qu'on appelle la transition énergétique, et qui, au fond, est assez simple à caractériser. Il suffit de sortir trois produits du système énergétique, le charbon, le pétrole et le gaz. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 80% de l'énergie dans le monde provient de ces énergies fossiles. Ça, c'est le volet énergétique. Je pense qu'on a déjà démarré cette transition énergétique dans un certain nombre de pays, et l'Europe est plutôt en avance de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas du tout assez rapide, et donc il faut accélérer cette transition énergétique. Mais là, on sait ce qu'il faut faire, et on sait à peu près comment le faire. Le gros problème, c'est les inégalités de développement et les inégalités de richesse. Vous avez des pays aujourd'hui qu'on appelle les pays émergents. Par exemple, moi j'étais au Vietnam au mois de septembre, où on prévoit de, par exemple, construire 4 centrales thermiques au charbon, où le besoin d'énergie est considérable pour accompagner le développement. Et là, la question, c'est est-ce qu'on peut finalement avoir un autre mode de développement que celui que nous avons historiquement suivi, autrement dit, bypasser le système des fossiles et aller directement vers des énergies décarbonées, et puis aussi y aller beaucoup plus efficacement. Ça, c'est le premier point. Mmh. Et il faut bien être conscient que l'Europe, les États-Unis ont évidemment un rôle très important à jouer. Mais la clé aujourd'hui sur l'inversion des trajectoires de gaz à effet de serre dans l'énergie, c'est l'Asie. Et il ne faut pas se leurrer. Parfois, on présente un peu les choses comme si les Occidentaux avaient les moyens de... Non, la vérité, c'est que le monde change énormément.
L'Asie, en l'occurrence, la Chine.
Et aujourd'hui,
peut-être plus particulièrement,
pas que la Chine, l'Indochine, tous ces pays-là qui sont aujourd'hui les principaux endroits où l'économie est extrêmement dynamique et où il s'agit de décarboner des économies très dynamiques.
Mmh. Victor Dixen, comment vous avez préparé ce roman, cette fiction? Vous vous êtes appuyé sur des travaux de climatologues, sur des travaux d'économistes, peut-être comme ceux de Christian de Pertuis, pour pouvoir construire ce roman?
Oui, tout à fait. Alors, le livre de Christian de Pertuis n'était pas apparu à l'époque où j'ai écrit Extincta, mais je me serais appuyé dessus. Je l'ai lu depuis. C'est vrai que j'ai essayé d'ancrer cette fiction, cette projection très lointaine dans une réalité qui est celle du réchauffement climatique et du changement climatique, comme on dit, tel qu'on l'observe aujourd'hui. Et ensuite, l'imagination a pris le relais. C'est vrai que, à mon échelle de romancier, j'essaye un peu de jouer un rôle d'alerteur, hein, mais comme le font des militants par ailleurs aussi, voire plus efficacement. Mais ce qui m'intéresse m'intéressait également, c'était de manière peut-être plus littéraire, de voir ce qu'on garde, ce qu'on sauve de l'humain dans un monde qui se délite comme ça. Est-ce que l'espoir peut survivre? Est-ce que l'amour peut survivre? Et j'avais en tête, parmi les références littéraires, alors on a parlé des essais sur lesquels je me suis appuyé, mais peut-être aussi ce roman qui a été un très gros succès au 19e siècle, Les Derniers Jours de Pompéi, qui raconte l'histoire donc d'une cité, Pompéi, qui va vivre ses dernières heures du fait d'une catastrophe écologique, en l'occurrence l'explosion du Vésuve, et les personnages se rendent compte un peu trop tard que le temps s'accélère. J'ai essayé d'avoir le même principe d'histoire, de narration, mais situé dans le futur et à l'échelle, cette fois-ci, de l'humanité.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, avant de prendre en ligne un auditeur, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce qu'il faut avoir en tête l'idée de l'extinction possible de la planète pour pouvoir agir?
L'extinction.
Ou l'effondrement.
Moi, je ne suis pas un grand adepte de la théorie de l'effondrement. Je suis quelqu'un de résolument optimiste. Si je ne l'étais pas, je n'aurais pas d'engagement public. Je pense qu'avoir un engagement public, c'est croire qu'il y a un avenir possible et c'est vouloir l'améliorer et le porter. Donc, je pense qu'on peut difficilement vouloir porter un message public et être sur une théorie de l'effondrement. Par contre, il y a une chose qui est réelle, c'est que l'évolution climatique, le dérèglement climatique lié au réchauffement, il est inévitable. On le mesure de plus en plus fortement, les épisodes de sécheresse et de canicule qui s'étendent de plus en plus et reviennent de manière répétitive. On l'a vécu très fortement en Île-de-France cet été. Les épisodes de crue 2016, crue estivale, 2018, crue hivernale. Donc on a eu deux typologies de crues fortes en Île-de-France en moins de deux ans à des périodes complètement différentes, donc des origines différentes. On a passé le cap parce que c'est pas les mêmes bassins versants qui ont été amenés à monter. Sinon on aurait pu être sur des effets beaucoup plus lourds. On va être confronté de plus en plus fortement à ces phénomènes et on doit réfléchir à un monde, à un aménagement qui soit beaucoup plus résilient. Parce que la réalité, le stock, même si on agit urgemment et fortement pour la transition écologique, on va avoir à le gérer, on va avoir à vivre avec des phénomènes naturels de plus en plus violents, et ces phénomènes-là, il faut les prévoir. Donc comment est-ce qu'on construit un habitat qui puisse permettre de supporter, de continuer à vivre. Comment est-ce qu'on développe des zones tampons? C'est repenser profondément l'aménagement des décennies qui viennent.
Allez, comme promis, je vous propose d'accueillir notre premier auditeur du jour. Je vous invite à mettre sur vos oreilles un casque pour pouvoir entendre André qui nous appelle de Carpentras. André, bonjour.
Oui, bonjour. Merci pour cette émission qui est très intéressante. Ma question sera la suivante. Dans la mesure où il y a de plus en plus d'oxydes carbonés ou d'oxydes azotés, que ces oxydes sont fabriqués à partir de l'oxygène, ne pensez-vous pas que petit à petit, les atomes d'oxygène qui existent dans l'air vont diminuer progressivement et que cela va entraîner énormément de souffrance au niveau du corps, dans la mesure où on sait que la réduction d'oxygène entraîne automatiquement une souffrance au niveau des cellules nerveuses, des cellules cérébrales, des cellules oculaires et surtout que les cellules cancéreuses se développent allègrement dans les milieux hypoxiques. Merci de votre réponse.
Alors, qui est-ce qui veut tenter de répondre à cette question? En gros, est-ce que l'oxygène est en train de diminuer sur notre planète, si je peux reformuler les choses?
Moi, sur cette question, c'est une question connexe. L'hypoxie, je rebondis sur le dernier mot, effectivement, qui est une perte d'oxygène d'un milieu. Dans l'atmosphère, ça je ne sais pas, mais ce qui a été avéré, c'est que dans les milieux océaniques qui se réchauffent du fait du réchauffement climatique, on a une perte d'oxygène qui va en fait affecter toute la biosphère, à commencer par le phytoplancton, et toute la chaîne alimentaire des océans comme ça s'effondre et on a des zones mortes qui s'étendent de plus en plus importantes. Ça existe déjà aujourd'hui. On pourrait imaginer que dans un futur où le réchauffement climatique s'emballerait, ça toucherait tous les océans de la planète. Et c'est le cas dans Extincta, les océans sont devenus des zones mortes tout simplement. Il n'y a plus que les algues.
Parlons des océans, si vous voulez bien, Christian de Pertuis, parce que c'est un enjeu, en fait. Hein. Aujourd'hui, dans les COP, différentes COP là, qui ont lieu en ce moment, on parle beaucoup des océans.
Oui, enfin, on parle plus qu'on ne fait, à vrai dire. Alors, moi, je voudrais revenir sur la question de la transition, parce que le deuxième volet de la transition, c'est celui-là. C'est ce que j'appelle le carbone vivant. C'est tout ce qui concerne la diversité biologique, aussi bien de l'océan que des milieux terrestres. Et je trouve que Le roman Extincta est de ce point de vue-là extraordinaire, puisque il nous décrit un monde où la vie a pratiquement disparu du milieu terrestre. Bon. Et pour moi, c'est un enjeu majeur. C'est le deuxième enjeu du climat dont on ne parle pas suffisamment, qui concerne la capacité du milieu naturel à stocker le CO2. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, les objectifs en termes de politique climatique sont donnés en termes de neutralité carbone. Ça veut dire quoi, la neutralité carbone ? Ça veut dire qu'on stabilise le stock de gaz à effet de serre en accroissant la capacité du milieu naturel à stocker le CO2 de l'atmosphère. Et pour le stocker, il y a le milieu terrestre, d'où l'importance de l'agriculture et des forêts. C'est, on a beaucoup parlé, par exemple, cet été, des incendies en Amazonie et en Indonésie. Mais on n'a pas suffisamment parlé de la cause de ces incendies. La principale cause, c'est une cause agricole. Hein. On étend les terres consacrées à l'agriculture et à l'élevage au détriment de la forêt. Et si on n'agit pas sur ces causes, autrement dit sur les systèmes agricoles, on ne va pas réduire la forêt.
Donc c'est
et
notre modèle économique qui est directement
bien sûr. Hein. Et puis, sur les océans, si je peux rajouter un mot.
Oui.
Sur les océans, on a le même phénomène. C'est la capacité de stockage de l'océan dépend de la photosynthèse marine, les algues, les phytoplanctons dont vous avez parlé. Donc la diversité de la vie à l'intérieur de l'océan. Et nos modes de production et nos modes de consommation altèrent gravement cette biodiversité marine. On ne sait pas très bien comment, on connaît très mal hein, le système océanique. Mais il y a un enjeu majeur. Et pourquoi cet enjeu est majeur ? Parce que à long terme, le principal puits de carbone, c'est pas le puits de carbone terrestre, c'est le puits de carbone océanique. Il y a beaucoup plus de carbone qui est stocké dans les océans que dans les sols et dans les forêts.
Allez, on va continuer de parler de tout ça juste après cette pause musicale. On écoutera aussi d'autres auditeurs comme Hubert qui va intervenir. Et si, comme lui, vous souhaitez prendre la parole, 04 72 38 20 23. Vous pouvez également nous écrire le temps de le dire, @rcf.fr. Song for Someone, c'était U2 sur RCF.
Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF.
À l'occasion de la COP25 sur le climat qui a lieu en ce moment à Madrid, nous parlons ce matin sur RCF des conséquences du réchauffement climatique et des leviers que nous pouvons encore actionner pour agir face à l'urgence. Jusqu'à 10h, je reçois Victor Dixen, auteur du roman Extincta, paru aux éditions Robert Laffont, l'économiste Christian de Pertuis, auteur de L'essai le tic-tac de l'horloge climatique aux éditions de Boeck, et Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement. Hubert est avec nous, vous nous appelez de Grenoble. Hubert, bonjour. Hubert, bonjour. Alors Hubert, si vous n'êtes pas derrière votre combiné, ça ne va pas bien se passer pour vous. Bonjour Hubert.
Oui, bonjour. Alors mon propos est le suivant. Depuis un certain temps, on est informé de façon régulière sur sur ces problèmes de réchauffement climatique. Et parallèlement, on est abreuvé de publicité jusqu'à la folie pour nous pousser à consommer comme des malades.
Oui. Vous voulez qu'on réagisse à cette contradiction ?
Ah bah écoutez, vous faites ce que vous voulez, voilà mon point de vue. Et d'un autre, d'un côté, je me demande si on ne nous prend pas pour des crétins, parce que, tenez, le dernier exemple, puisque vous voulez bien me laisser la parole, il y avait une émission sur la nutrition qui conseillait de consommer moins de viande. Et après, c'était suivi d'une pub pour la bidoche Label Rouge.
Alors, on va essayer justement d'interroger cette contradiction-là. Je vous laisse la parole, Jean-Philippe Dougouin-Clément, une réaction à ce que vous venez d'entendre.
On est tous individuellement, et on est dans un monde qui est pétri de contradictions, parfois à la limite de la schizophrénie, entre des objectifs généraux et ce qu'on est prêt individuellement à accepter, entre effectivement un discours qu'on peut essayer d'expliquer, de tenir, qui peut être extrêmement vertueux pour expliquer aux gens des gestes à avoir, et puis des logiques derrière qui peuvent être déclinées dans la publicité ou ailleurs, qui sont des logiques de surconsommation, qui contribue également à entraîner une accélération d'un certain nombre d'activités économiques, certaines pouvant être polluantes. Cette logique-là, on la retrouve un petit peu partout. On la retrouve effectivement par rapport à la consommation de viande, à la surconsommation. La réalité reste quand même aujourd'hui que le combat qui est apporté sur ce dérèglement écologique auquel nous avons à faire face, sur ces problématiques de réchauffement de la planète, sur ces problématiques de surproduction de carbone, de surconsommation énergétique, il va au-delà de nos pays, il va au-delà de la France et des pays occidentaux. Ce qui était dit tout à l'heure, on représente aujourd'hui 70 millions de Français sur un pays qui est loin d'être parfait, mais qui a déjà opéré une grande partie de sa transition. On peut être pour ou contre le nucléaire, mais on est sur une énergie qui est plus décarbonée qu'on peut l'avoir dans d'autres pays. Et aujourd'hui, le combat, on doit le mener ici, mais on doit aussi le mener en Asie, on doit le mener en Chine, on doit le mener en Inde, on doit le mener par rapport aux problématiques de déforestation massive qu'il y a en Amazonie. En Ile-de-France, on replante des arbres. On vient de lancer le plus grand chantier depuis Colbert de plantation de création de forêts. Sur la plaine de Pierre-lès-Bessancourt, 1200 hectares de terrains pollués qui ont été mis à disposition par la région et la ville de Paris. On est en train de replanter 1 million d'arbres. Pour autant, ce million d'arbres qu'on plantera, si on ne va pas au-delà en allant protéger ce qui existe et qui aujourd'hui est attaqué, ça ne suffira pas.
Victor Dixen, on parlait de viande dans le roman Extincta. En fait, la viande est proscrite. C'est le véganisme pur.
Tout à fait. Alors déjà par contrainte, parce que presque tous les animaux ont disparu. Il reste certaines formes très résistantes, des insectes du désert. Mais leur consommation est bien sûr totalement proscrite, interdite. C'est une hérésie de les manger. Donc c'est un véganisme. Et pour rebondir sur ce qui se disait, c'est vrai qu'on est dans une société de la surconsommation, ça on peut pas le nier. C'est vrai aussi que les phénomènes écologiques, faut les considérer au niveau planétaire, hein, pas au niveau d'un pays. Et les économies qui ne sont plus maintenant émergentes de la Chine, mais qui sont en pleine croissance, génèrent aussi de la consommation. Au niveau des modes d'alimentation, c'était des pays où on mangeait pas trop de viande, on en mange de plus en plus en adoptant le mode d'alimentation occidental. Donc tout ça, bien sûr, pose question. Et par opposition, dans mon monde du futur, dans Extincta, on a un monde de sous-consommation totale par la force des choses. La seule ressource qu'il reste, une fois encore, ce sont les algues qui servent d'alimentation, qui servent également pour l'habillement. On tisse ses habits avec des algues pour se protéger des rayons du soleil qui sont devenus mortels. Il n'y a plus de filtration des UV ou presque. Donc, quelque part, si on ne réussit pas à réguler cette hubris, qui est un terme, je crois, qui revient dans votre conclusion, Christian, dans votre livre, de surconsommation aujourd'hui, peut-être qu'on prépare un monde de sous-consommation absolue pour nos descendants.
Alors, quid, justement, peut-être, Christian Dupertuis, des conséquences de la rareté des ressources liées au réchauffement climatique ?
D'abord, je voudrais remercier Hubert sur sa question, parce que je pense que, en gros, pour faire rapide, la société de l'hyperconsommation et de l'hyperindividualisme n'est pas compatible avec la transition qu'il nous faut mener pour reprendre la maîtrise du changement climatique. Et donc ça veut dire que les implications de cette transition, ce n'est pas uniquement de changer des systèmes technologique. Hein. Souvent, on a une approche un peu technologique des choses. Ça veut dire que c'est l'ensemble des fonctionnements de la société et ça remet en cause fondamentalement le mode de fonctionnement de notre société. Et je crois que le fait de dire que, effectivement, aujourd'hui, la clé est en Asie, ça ne nous dédouane absolument pas notre responsabilité. Parce que qu'est-ce qui s'est produit? Tout simplement que, comme l'a dit Victor, si on prend l'exemple de la consommation alimentaire en Chine, est très intéressant. Moi, j'ai dirigé une thèse, la première thèse sur l'agriculture et les émissions de gaz à effet de serre en Chine. Hein. Le mode de consommation alimentaire en Chine a complètement évolué. Et on consomme pratiquement autant de viande en Chine aujourd'hui par habitant qu'en Europe. L'Inde, non. L'Inde a conservé un mode de consommation beaucoup plus frugal.
Lié à des traditions religieuses, culturelles.
Beaucoup lié à des traditions religieuses et culturelles, et également lié au fait que l'Inde n'a pas eu la rapidité du développement de la Chine. Mais je crois que ce point est très important. Et pour revenir à ce que disait Victor sur la conclusion de mon ouvrage, je crois que les vrais choix qu'on a devant nous, c'est d'avoir une modération choisie de la croissance assumée et une modération assumée de moins de consommation, de moins d'accumulation d'énergie. Ou sinon, on ira vers le monde qui est décrit par Victor.
Sinon, c'est la guerre.
Sinon, on ira vers un monde de décroissance subie. Et le point ultime de la décroissance subie, c'est Extincta.
Alors, la décroissance subie ou aussi le fait que les riches puissent s'accaparer les ressources qui demeurent.
Bien sûr. Alors, la question est des inégalités fondamentales. La question des inégalités, elle est fondamentale. Mais elle n'est pas simple. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas simple? Parce que la globalisation, la mondialisation, contrairement à ce que souvent on affirme en France, elle a incroyablement réduit la pauvreté dans le monde. Plus d'un milliard d'habitants en Asie ont accédé à un niveau de... Et c'est bien parce qu'il y a eu cette réduction massive de la pauvreté que les consommations d'énergie ont augmenté et que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté. Donc, on n'a pas une équivalence immédiate entre la réduction de la pauvreté et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus compliqué que ça. Bien évidemment, une politique climatique ambitieuse, ça implique beaucoup plus de justice. Et moi, je pense que j'ai essayé de décrire dans l'ouvrage, une partie même, quelles sont les conditions, les critères de justice climatique qui vont permettre d'accélérer. Et je pense que ce qui se discute aujourd'hui à Madrid, dans le cadre de la COP25, c'est extrêmement important d'intégrer les critères de justice. Comment est-ce qu'on peut faire des transitions avec des pays, je pense notamment aux pays au sud du Sahara en Afrique, qui ont encore des niveaux de consommation extrêmement bas, dans lesquels la majorité de la population n'a pas encore accès à l'électricité, dans lesquels les modes de cuisson traditionnels sont extrêmement nocifs pour la santé, puisque c'est la première source de pollution atmosphérique, les systèmes de cuisson traditionnels, où il n'y a même pas de cheminée pour évacuer les fumées. Donc la personne qui utilise l'énergie se rend malade de la pollution. Et donc c'est ça la question. Comment est-ce qu'on peut concilier la réduction massive de notre hyperconsommation avec un accès à l'énergie et à la consommation pour les moins favorisés?
Alors on va tenter d'apporter quelques éléments de réponse à cette question et d'autres encore dans cette émission. Restez avec nous, changement climatique, attention, danger, c'est le thème du temps de le dire. Il y a pas mal d'auditeurs qui patientent et qui veulent réagir, poser des questions. Eh bien, nous les accueillerons avec plaisir. Avec donc Victor Dixen, Christian de Pertuis et Jean-Philippe Dugoin, Clément, ce sont mes invités jusqu'à 10h. À tout de suite.
Le temps de le dire revient dans un instant. Pour les fêtes de fin d'année, la boutique RCF vous présente une large sélection d'idées cadeaux. Offrez un calendrier Parole d'Espérance, le coffret Vivre l'Avent ou un bracelet personnalisé pour mettre la parole de Dieu au cœur de nos vies. Pour passer commande, appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10. Avec RCF, vivez un Noël apaisé. Pour prendre le temps de préparer Noël dans un climat de paix, découvrez deux podcasts exclusifs. Halte spirituelle spéciale Avant et Les Aventures de Noël. Pour les écouter et vous abonner gratuitement, rendez-vous sur rcf.fr ou sur l'application RCF. avec les podcasts de l'Avent, vivez un Noël apaisé sur RCF.
Cette année encore, en achetant le calendrier Paroles d'Espérance, vous allez permettre à un détenu de recevoir un exemplaire. Écoutez le témoignage de ceux qui l'ont déjà reçu.
Thierry, centre pénitentiaire de Lille-Annelin. Étant en détention depuis plusieurs années, les divers commentaires apportés sont très agréables à lire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'en faire parvenir un exemplaire comme vous l'avez fait l'année dernière? Merci.
Pour commander votre calendrier Parole d'Espérance et faire entrer la joie dans les prisons, appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10.
Nous sommes invités à agir pour limiter le réchauffement climatique et accélérer la transition énergétique, et ce malgré l'inertie qui semble bien souvent prévaloir. Jusqu'à 10h, je vous propose les regards croisés d'un romancier, d'un économiste et d'un élu. Victor Dixen, qui publie Extincta aux éditions Robert Laffont, Christian de Pertuis, auteur du livre Le tic-tac de l'horloge climatique, et Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France chargé de l'écologie. Pierre a patienté et nous le remercions. Vous nous appelez de Lozère. Pierre, bonjour.
Oui, merci beaucoup et merci pour votre émission. Pour que moi, en tant que citoyen, je puisse agir, il faut que je connaisse. Que je connaisse d'abord les dégâts que moi je fais et que j'agisse en conséquence. Et puis aussi et surtout que je connaisse le système économique actuel, qu'on appelle le capitalisme ultralibéral, peu importe son nom, et dont on sait qu'il est basé sur la recherche du profit et pas du tout sur la santé des consommateurs ou sur la santé de la planète. Pour prendre l'exemple de la santé des consommateurs, c'est quand même pas par hasard qu'on a actuellement plus de 2 milliards d'obèses sur la planète. Bon, etc. Ce système est basé essentiellement sur le libre-échange. Alors j'ai deux questions par rapport à ça. Et un, est-ce que tout ce qui est échangé aujourd'hui sur la planète, aussi bien en matière de produits que de services, mérite d'être échangé? Et deuxième question, ceux qui méritent d'être échangés, parce qu'il y a des choses qui méritent d'être échangées, est-ce que c'est vraiment échangé au véritable prix, c'est-à-dire en prenant en compte les externalités négatives, c'est-à-dire les dégâts que ça cause à la planète? Je crois que tant qu'on n'aura pas connaissance, une véritable connaissance des rouages du système économique actuel, où on s'aperçoit qu'on se bat sur des idéologies, les libre-échangistes d'un côté, les protectionnistes de notre côté, alors que la vérité, je crois, elle est beaucoup plus complexe. Oui. Il y a des cas où le libre-échange est préférable au protectionnisme et d'autres cas où le protectionnisme est préférable au libre-échange. Mais encore faudrait-il avoir une connaissance la plus fine possible de tous ces rouages économiques qui nous écrasent, parce qu'actuellement, on sent bien que c'est scandaleux, toutes ces inégalités, c'est un vrai scandale, mais on ne sait plus du tout par quel bout agir.
Merci beaucoup Pierre.
Actuellement, voilà.
Merci beaucoup Pierre. Jean-Philippe Dugouin-Clément, sur cette question que soulève Pierre, finalement, qui pose la question du lien entre économie et écologie. Quelle économie pour une écologie, finalement, qui soit digne de ce nom?
Oui, Pierre, en fait, pose deux sujets. Le premier, bon, qui est une évidence, c'est la question de l'éducation individuelle de chacun par rapport au comportement, par rapport à l'environnement, par rapport à ce qui est faisable, soutenable ou ce qui ne l'est pas. Ça, je crois que c'est notre rôle à tous, en tant qu'élus, au travers des outils qu'on peut développer, qu'on peut financer, au travers des médias, au travers de la presse, des enseignants, des écrivains, d'avoir ce travail de pédagogie et d'éducation. Puis le deuxième volet, c'est la question au-delà de la libre circulation, du protectionnisme, du non-protectionnisme, c'est la question de la fiscalité écologique. C'est est-ce que à un moment on met un poids sur certains produits dont on sait qu'ils ont des conséquences négatives? Est-ce qu'on les rend moins intéressants? Est-ce que on rend le commerce de ces produits moins intéressant? Ou est-ce qu'au contraire on essaye de rendre plus attractifs certains produits dont on considère qu'ils peuvent être vertueux? Alors quand on parle de fiscalité écologique, c'est extrêmement difficile. Enfin, on vient de sortir de la question de la taxe carbone sur les carburants qui a quand même créé le phénomène de gilets jaunes. Et on est dans un pays où culturellement, on va jouer sur des créations de taxes, mais pas forcément sur le sentiment de rendre l'argent par ailleurs. Et en général, les taxes se créent et quand on en crée une, on n'en supprime pas une autre, ce qui est un petit peu la limite de l'exercice. Et puis on est aussi dans un pays où on est arrivé à un tel niveau de prélèvement prélèvement obligatoire sur les personnes, que chaque nouvelle taxe qui est créée devient aujourd'hui polémique et devient potentiellement insupportable aussi. Mais la réalité des choses, c'est comment est-ce qu'on change le modèle économique pour aller vers une incitation à consommer vertueux, à consommer raisonnable, à consommer mieux. On n'ira pas d'un monde d'hyper-consommation à un monde de non-consommation, en dehors d'un crash ou d'un effondrement ou d'un cataclysme, mais est-ce que on décide enfin d'avoir une logique d'évolution du système pour être sur un système plus vertueux et plus vert?
Alors je vais interroger dans un instant Christian de Pertuis sur la question de la fiscalité écologique, de la taxe carbone, puisque vous avez beaucoup travaillé, mais finalement, Victor Dixon, est-ce que si on avait mis en place de telles taxes, on aurait évité l'effondrement?
Oula, vaste question. Je pense que ça va dans le bon sens, peut-être, enfin, de réguler effectivement ce capitalisme, pour reprendre le terme utilisé par l'auditeur, qui très certainement est court-termiste. Il s'agit de produire, de consommer sans forcément réfléchir à long terme à l'impact. Donc là, il y a un besoin de régulation. Il y a plusieurs solutions qui peuvent être apportées par les politiques.
Parce que dans votre roman, encore une fois, c'est intéressant de le rappeler, il n'y a pas de régulation. C'est-à-dire que là, on est vraiment face à une forme d'autoritarisme. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix, sinon...
Ah oui, parce que là, de toute façon, l'effondrement écologique est arrivé. Le réchauffement climatique est arrivé à son extrême développement. Donc voilà, il est déjà trop tard, pour ainsi dire. Mais j'ai l'impression que cette pression de la civilisation humaine sur l'environnement, il n'est pas propre au capitalisme. Si on regarde dans l'histoire, il y a d'autres civilisations qui se sont effondrées, qui n'étaient pas capitalistes, parce qu'elles ont surexploité leur environnement. Je pense à l'île de Pâques, qui est un exemple emblématique, parce que c'était une île, donc vraiment un territoire circonscrit. Angkor Wat est souvent cité. On pense que l'Empire Maya s'est aussi, en fait, en grande partie effondré du fait de la surexploitation de l'environnement, en plus de l'arrivée des Occidentaux. Donc je pense que c'est en fait un peu un trait de l'espèce humaine de croître sans forcément se projeter trop dans l'avenir. Aujourd'hui, on a les outils intellectuels et on a des moyens de prévoir ce que peut donner les conséquences de notre activité. Pour la première fois dans l'histoire, peut-être, on peut se projeter et réussir à se développer en préservant l'environnement. Donc maintenant, il faut qu'on ait la conscience globale, collective, de le faire. Il y a des signes positifs dans ce sens. Il y a des raisons d'être optimiste, il y en a d'être pessimiste. Et pour un romancier, en tout cas, c'est intéressant parce qu'on peut projeter des visions de l'avenir à partir de tout ça.
Pourquoi tant de réticence, Christian de Pertuis, sur la taxe carbone? On parlait de fiscalité écologique il y a un instant.
Alors, moi, je voudrais peut-être répondre à la question de l'auditeur sur le commerce. Je crois qu'il a parfaitement raison. Dans l'introduction de mon ouvrage, je cite un négociant qui, pendant la guerre de l'opium, justifie le commerce de l'opium au nom du libre-échange. Donc, vous voyez que combien le libre-échange peut amener à des folies. Voyez, bon. Donc je crois qu'un enjeu majeur en Europe, pour les années qui viennent, ça va être de subordonner la politique commerciale à la politique climatique. Alors que l'Europe s'est construite depuis plusieurs décennies sur les bases du libre-échange. Et on le voit bien quand on discute avec les responsables européens, ils discutent l'OMC, le GATT, etc. Non, je crois qu'il faut effectivement voir que le commerce international peut être un extraordinaire vecteur de développement et de diffusion de la richesse, mais le commerce international est aussi devenu un extraordinaire multiplicateur d'émissions et de CO2. Et donc, il est urgent qu'on trouve les moyens de subordonner les règles du libre-échange aux enjeux climatiques. Ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point sur les externalités et la taxe carbone, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, je partage tout ce qui a été dit. On n'arrivera pas à accélérer la transition si on ne met pas dans les prix et dans les valeurs qu'on échange le coût des dommages climatiques. Donc il faut trouver les moyens d'avoir des prix qui reflètent les coûts que nous apportons à la destruction du milieu naturel. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Tout simplement parce que, sitôt que on va introduire à large échelle une tarification carbone, que ce soit par des taxes ou par d'autres mécanismes, par exemple des systèmes de quotas, on a des impacts distributifs très importants. Et on a des impacts distributifs très importants à la fois suivant le niveau de revenus des populations et suivant leur localisation. En gros, suivant qu'elles sont plus ou moins loin des centres-villes. Et si on n'est pas capable d'utiliser ces taxes carbone pour gérer ces effets distributifs, eh bien, on n'y arrive pas. C'est ce qui s'est passé en France.
Oui.
En France, on a très mal géré les effets distributifs de la taxe carbone. Et il se trouve que j'étais aux manettes lorsqu'on a introduit la taxe carbone en France. Moi, j'avais préconisé dans mes propositions au gouvernement qu'on utilise un tiers de la taxe carbone pour faire de la redistribution vers les bas revenus. Ceci n'a pas été fait.
Bon. Et donc, on a vu cela comme quelque chose de punitif.
Absolument. Voilà. Hein. Pour reprendre une expression fameuse d'une ancienne ministre de l'écologie.
Alors, comment sortir de l'écologie punitive, Jean-Philippe Dugoin-Clément?
Bah, c'est tout le problème de l'acceptabilité. Je pense que c'est le problème de fond, en tout cas dans nos sociétés occidentales et dans notre pays en particulier. C'est on a réussi à faire de l'environnement ce qu'on a fait de l'Union européenne, c'est-à-dire quelque chose qui est ressenti comme une contrainte, qui est ressenti comme beaucoup de gens quasiment comme un phénomène extérieur qui est punitif, qui est imposé et qui vient imposer des modes de vie différents et souvent imposer des modes de vie qui sont profondément défavorables aux couches les plus modestes, aux classes les plus modestes. C'est l'exemple du diesel, où souvent des gens qui ont acheté un diesel d'occasion qu'à des années, c'est pas les personnes les plus riches qui peuvent aller acheter une Mirai à 80 000 euros. C'est cette réalité-là. Donc tout le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à rendre la transition écologique soutenable et c'est d'arriver à travailler non plus uniquement avec un bâton mais avec une carotte. C'est d'arriver à travailler avec un système de redistribution. Quand on parle par exemple de zones à faible émission, pour protéger, alors non pas concernant l'oxygène, mais protéger la qualité de l'air par rapport aux particules, par rapport au dioxyde, eh bien c'est aussi de mettre en place des systèmes de primes, puisque d'un côté, si on veut investir sur cette transition énergétique, il faut le faire, c'est de créer des systèmes de primes pour pouvoir aider les gens à aller vers des transitions énergétiques. On a, si on prend cet exemple du diesel, pendant des années, fiscalement, dumpé une filière. On a expliqué aux gens qu'il fallait acheter du diesel, que c'était vers et on a tout fait, que ce soit sur le prix du carburant au niveau des taxes ou sur les prix des véhicules, pour forcer cette filière. Eh bien, ce qu'on a fait sur des systèmes dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils ont eu des effets induits pervers, eh bien, il faut qu'on le fasse aujourd'hui vers des systèmes vertueux. Si on ne le fait pas, il n'y aura pas d'acceptabilité. Et si les gens ne s'en emparent pas individuellement, on ne pourra pas progresser.
En tout cas, l'écologie punitive, et c'est intéressant dans votre roman, Victor Dixen, recrée d'une certaine façon une société de classe.
Oui, une société presque féodale. Hein. L'humanité est privée maintenant de toute technologie et de pratiquement toute ressource à régresser pratiquement à l'âge de pierre. Et on a une société très hiérarchisée et qui, en fait, paradoxalement, va imiter la structure de la biosphère du passé qui a disparu. C'est-à-dire que chaque individu à la naissance se voit affecter un animal greffe qui va revivre à travers lui. Donc la personne va recevoir un nom d'un animal disparu. Lorsqu'il sera adulte, on va tatouer sur son corps l'animal. Et donc, c'est ce qu'on appelle le greffage. Et mes deux personnages principaux, Osserian et Astrea, appartiennent aux deux extrêmes de la société. Astrea, c'est une bêcheuse d'algues. Donc, elle cultive à longueur d'année ces algues qui viennent de la mer. Et elle a été greffée avec l'étoile de mer, qui se dit en latin Asterias rubens, donc d'où son nom Astrea.
Et elle fait partie d'une classe qui s'appelle
les suants, voilà, parce qu'ils effectivement ils passent leur vie à suer sur les champs en expiation des péchés écologiques des hommes du passé. Juste au-dessus des suants, il y a les crachants, qui sont une caste intermédiaire qui relaie les ordres des castes dirigeantes et donc ils utilisent leur salive. Au-dessus, on a les saignants, qui eux sont la classe des guerriers, tout simplement, dans l'ordre féodal, qui dispensent leur sang au service de la renaissance de Terra. Et enfin, au-dessus encore, on a les pleurants, ce sont les prêtres qui versent leurs larmes sur les animaux du passé. Et tout en haut de cette pyramide écologique, qui en fait reproduit la pyramide écologique du passé, on a les apex, donc les seigneurs, les princes, ainsi nommés en hommage bien sûr aux prédateurs apex qui siégeaient en haut des chaînes alimentaires. Mon deuxième personnage principal, Osserian, lui a été greffé avec le narval, qui en latin se dit monodon monoceros, d'où son nom Osserian. Et ces deux personnages que tout séparait, a priori, vont se rencontrer et vivre une dernière histoire d'amour dans ce monde qui s'enflamme.
Allez, je vais peut-être faire réagir dans quelques instants Christian de Pertuis à ce qui vient d'être dit, parce qu'il a lu attentivement le roman de Victor Dixen. On se retrouve dans quelques minutes après cette nouvelle pause musicale. N'hésitez pas à prendre la parole. 04 72 38 20 23, le temps de le dire, @rcf.fr.
As they talked on and on in the usual way, And I know why green is blue. There's so much we didn't do. Oh, I know why green is blue. The weather change, we saw the fires and floods, we saw the people rise, dividing, we fought each other while we lost our coveted prize. There's so much we did.
Blue, c'était Neil Young sur RCF.
Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire sur RCF.
Face aux menaces environnementales, l'heure n'est plus à l'attentisme, mais à l'action. Alors comment agir concrètement au plan des États, mais aussi plus localement, à notre niveau de citoyen? Nous tentons d'apporter des réponses à cette question grâce à l'éclairage de mes invités, le romancier Victor Dixen, auteur d'Extincta chez Robert Laffont, l'économiste Christian de Pertuis, dont le dernier essai, Le tic-tac de l'horloge climatique, est paru récemment aux éditions de Boeck, et Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, chargé de l'écologie et du développement durable. Comme promis, Christian de Pertuis, je vous laisse la parole pour réagir à cette pyramide qui a été détaillée par Victor Dixen, cette pyramide, ces classes hein, qui renaissent dans une société où eh bien, le monde est en voie d'extinction. Alors, une réaction, et puis peut-être après, j'aimerais vous poser la question sur les expériences locales, parce que vous écrivez « Les expériences locales sont un laboratoire d'innovation servant de garde-fou aux excès du capitalisme post-carbone ». Christian
alors, il y a deux questions en une. Bon,
il y en a deux.
Je vais parler d'Extincta parce que je voudrais quand même dire que c'est. Il paraît que c'est un roman pour un ado, mais moi je conseillerais beaucoup aux adultes de le lire hein, parce que c'est vraiment un roman extrêmement passionnant. Et moi je voudrais dire une chose, c'est que la fin de l'ouvrage est très impressionnante parce que on est sur une planète qui est devenue morte, hein, comme ça a été rappelé. Et on voit que toutes les formes de la vie... Alors, on disait tout à l'heure, non, on peut plus consommer de viande animale. Donc la seule viande qui peut rester potentiellement à consommer, on voit laquelle c'est. Hein. C'est la nôtre. Hein. Et évidemment, les apex consomment, sont devenus des cannibales. Bon. Et il y a une formidable histoire d'amour entre le haut de la pyramide et le bas de la pyramide.
Il ne faut pas tout révéler non plus.
Voilà. Non, je ne vais pas tout révéler. Et il y a la fin du monde. Mais... est-ce que c'est vraiment la fin du monde?
Trois petits points de suspension.
Il faut lire jusqu'à la fin.
Attention.
Il faut lire jusqu'à la fin. Est-ce vraiment la fin du monde? Ah. Voilà. J'en note pas plus. Alors. Mais il faut arriver jusqu'à la fin pour voir toute la subtilité. Et moi, je pense que vraiment, Victor a réussi un exploit, si vous voulez. Mm-hmm. Il a réussi un exploit parce qu'il a décrit la fin du monde. Mais.
L'espoir demeure, exactement. Alors, juste pour rebondir là-dessus, parce que c'est vrai, j'ai invité un peu les poètes dans ce roman, qui est un roman un peu comme un chant, finalement. Il y a deux poètes que j'ai mis en exergue, notamment du livre, Baudelaire, hein, « Les fleurs du mal » reviennent beaucoup dans le livre. Il avait le projet d'écrire un roman sur les derniers hommes qu'il n'a jamais écrit. On a retrouvé ça dans ses notes après sa mort, et ça a vraiment mis le feu à mon imagination. L'autre poétesse que je cite en exergue, c'est Emily Dickinson, qui dit que l'espoir est une chose à plumes qui se perche dans l'âme et dont le chant ne s'arrête jamais, et que c'est justement dans la tempête qu'il résonne le plus fort. Voilà, donc ça, pour rebondir juste sur ce que disait Christian, l'espoir, bien sûr, reste jusqu'au bout.
Alors, j'ai oublié un auditeur qui a patienté longtemps, mais je vais résoudre ce problème maintenant, puisque j'accueille André. André, désolé de cette attente. Bonjour.
Ok, merci. merci. Voilà. Bon, d'abord, moi, je voulais dire, enfin, la question du capitalisme se pose. Je ne crois plus à la régulation. Je crois qu'il faut en sortir. D'ailleurs, il y a des auteurs qui proposent d'autres modèles, comme, disons, Paul Ariès, par exemple. Et il y en a bien d'autres sur les communs, etc. Donc, voilà aussi une petite chose, c'est que le modèle de l'effondrement pour l'île de Pâques est remis en question. J'ai lu ça dans la revue Imagine, mais c'est aussi un peu en dehors du sujet. Voilà. Sinon, moi, je pense que, bon, il faudrait d'abord que nos dirigeants prennent l'exemple. Hein, tous ceux qui peuvent aller en train doivent aller en train à la COP21 ou pour utiliser les moyens informatiques pour communiquer. Quoi. Enfin, COP23 plutôt, je pense. Oui, c'est ça.
COP25.
Bon, ça, c'est 25. Un exemple. Oui, il y a aussi, pourrait faire, peut-être, ça demande aussi des réformes, comme d'avoir des TGV de nuit, de rétablir les trains de nuit, etc., etc. Alors, bon, mon propos, qui est aussi l'économie de fonctionnalité ou d'usage, je pense qu'il est temps de changer aussi les choses à ce niveau-là. La France a pris une loi sur l'obsolescence programmée, c'est déjà ça, mais il faut aller plus loin. Par exemple, avec des imprimantes, disons, où on pourrait soi-même mettre l'encre et on n'aurait plus ces cartouches qu'il faut remplacer tout le temps, qui coûtent cher et qui conduisent à jeter l'imprimante plutôt que disons, continuer à l'utiliser. Il faudrait aussi changer le système. Je veux dire au niveau fiscal, avec pour favoriser la réparation, disons donc TVA 0% sur la réparation, cotisations sociales, etc. baissées ou annulées. Donc il y a des tas de choses qui peuvent être faites, des centres de quartier où chacun peut faire des petites réparations avec tout le matériel nécessaire.
Oui.
Donc je pense que là on sera vraiment dans la transition si on fait ça.
Alors beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Jean-Philippe Dugoin-Clément, en fait on sent bien qu'il y a le levier des pouvoirs publics et puis le levier des citoyens. Donc là, on l'a vu, Emmanuel Macron qui a mis en place cette instance de consultation citoyenne sur le climat. Certes, les politiques, les élus doivent montrer l'exemple, mais les citoyens doivent aussi prendre la responsabilité. Enfin, sachant qu'effectivement, les élus sont des citoyens avant tout.
Bah, les élus ne sont qu'à l'image des citoyens. Je serais même tenté de dire que c'est des citoyens comme les autres. Et on a aussi les élus qu'on choisit et qui nous représentent. Non, ce qui a été dit, c'est très riche parce que c'est ce que dit André, c'est une multiplication de points extrêmement précis sur lesquels on doit faire des progrès. C'est aller vers une économie circulaire. C'est ce sur quoi travaille le gouvernement aujourd'hui, ce sur quoi travaille la région. Quand on parle de mettre en place des microsystèmes vertueux pour de la récupération, du réemploi, on décline, on subventionne ce type de projet. On vient de se doter d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets pour être à l'échelle d'une région sur une logique de zéro déchet. Alors zéro déchet, ça veut pas dire qu'on n'en produira plus demain, mais qu'on arrive à réduire les déchets ultimes. Ça veut dire aller travailler effectivement l'obsolescence programmée, la question du suremballage en amont. C'est énormément de petites choses, à chaque fois très complexes, sur lesquelles on doit agir.
Alors il nous reste très peu de temps, Christian Pertuis, et j'aimerais vous entendre là-dessus. Je vous avais cité il y a quelques instants sur les expériences locales.
Vous avez bien fait, oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit au niveau local, parfois dans les régions, mais peut-être encore plus au niveau des municipalités, hein, puisque c'est vraiment à cette échelle hein, de la ville, et de la métropole, de la relation entre le territoire urbain et le territoire rural, que se montent beaucoup d'expérimentations très positives. Et moi, je suis frappé de l'écart qu'il y a entre la vision un peu complexe des problèmes lorsqu'on est depuis l'échelle nationale, dans les cabinets parisiens, dans les groupes de travail. Hein. On se dit, oh là là, c'est compliqué, etc. On segmente les choses, on les met en silos, et on a une multitude d'expériences locales où les citoyens, les acteurs locaux, lorsqu'ils se mettent en réseau, lorsqu'ils lèvent des barrières existantes qui font que souvent ils ne communiquent pas entre eux, ils trouvent des solutions, des innovations qu'on ne voit pas depuis l'échelle nationale. Et ça, je pense que c'est un formidable grain d'espoir.
Alors justement, pour reprendre vos mots, Victor Dixen, pourquoi derrière le gémissement de détresse, il peut y avoir un bruissement d'espoir ? Pour
Alors,
terminer.
Oui, bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que l'espoir, ça fait partie de ces choses qui sont inhérentes à l'espèce humaine et qui ne, qui ne s'éteignent jamais finalement, et ça c'est une vraie raison d'optimisme. Et Christian m'a fait l'honneur de citer la fin d'Extincta. Moi j'ai envie de citer la fin de votre livre qui m'a beaucoup marqué, avec cette référence à Descartes et Spinoza. C'est vrai qu'on a hérité d'un modèle cartésien de se rendre maître et possesseur de la nature, de l'animal-machine, d'utiliser les ressources comme si elles étaient à notre disposition. Et peut-être que la clé en fait du changement, c'est d'être plus spinozien, de comprendre qu'on fait partie d'un tout. Et d'envisager l'avenir de cette manière.
Et donc cette action collective, vous y tenez beaucoup aussi, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Il n'y a pas d'action possible en faveur du climat sans action concertée.
Tout seul, on ne fait rien. C'est uniquement le fait de travailler ensemble, de travailler au réseau, que ce soit les citoyens, que ce soit les associations, les entreprises, les collectivités. Enfin, on mesure à quel point travailler seul sur ces sujets-là ne sert à rien. Ce qui est fait uniquement au niveau de la région Île-de-France ou de la France ne servira à rien si on ne va pas au-delà. Ce qui est fait par une entreprise qui développe des modèles vertueux, si ça reste une goutte d'eau, ne sert à rien. C'est un tout.
Merci beaucoup Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France en charge de l'environnement. Merci également à vous, Victor Dixen. Donc je recommande la lecture de votre dernier roman, Extincta, aux éditions Robert Laffont. Et puis je recommande également la lecture de votre livre, Christian de Pertuis, avec cette préface de Jean Jouzel, Le tic-tac de l'horloge climatique, aux éditions de Boeck. Merci d'être venu dans cette émission et merci à Pierre-Henri Paget à la réalisation.